je vous salue chacun et chacune. C'est un dimanche un petit peu particulier. En ce sens, vous l'avez vu en entrant, nous avons, avec d'autres églises sur la ville de Rennes, et au-delà d'ailleurs, souhaité faire mémoire de ce qui s'est passé il y a à peu près 500 ans. L'anniversaire exact, c'est la publication des 95 thèses par Luther, mais on peut dire un peu plus globalement de la réforme, ce qui a inauguré une réforme de l'Église de Jésus-Christ, qui, comme son peuple d'ailleurs, comme le peuple hébreu tout au long des siècles, a sans arrêt dérivé, hein, mais le Seigneur est puissant pour la ramener, pour la réveiller, et la ramener dans la vérité. Et donc, à plusieurs églises, au moins sur Rennes, nous avons souhaité ouvrir les portes de ces lieux de culte avec une exposition qui est peut-être un peu culturelle, historique, mais aussi qui souligne les aspects, les fondements théologiques qui ont été remis en valeur lors de la Réforme. Et je voudrais à cette occasion souligner un des aspects de la Réforme qui a remis en valeur l'autorité de l'Écriture. Nous croyons non seulement que la Bible contient la parole de Dieu, mais nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. Luther et quelques autres avant lui ont redécouvert tout ce que déclare la Bible et de cette lecture, avec un cœur qui cherche la vérité, ça marche là, une attestation intérieure va être établie que rien ne pourra ébranler. Cette parole qui est dans la Bible, ça nous paraît assez évident aujourd'hui, enfin, du moins ça nous paraît évident d'avoir entre nos mains une Bible, ce livre, dans notre langue. L'exposition manifeste qu'aujourd'hui, plus de 95%, disons 95% de la population sur cette terre peut avoir accès à soit la totalité de la Bible, soit le Nouveau Testament, soit une partie du Nouveau Testament, dans sa langue. Ces choses, il y a encore beaucoup de langues pour lesquelles la Bible n'est pas traduite, mais en population, c'est aussi un signe d'ailleurs des temps où nous nous trouvons. 95% de la population sur cette terre peut avoir accès à la parole de Dieu. Cette parole, elle pose, je ne vais pas vous faire le résumé de la Bible, quelqu'un d'autre l'a fait mieux que moi, je le dirai tout à l'heure. Cette parole pose qui est Dieu et qui est l'homme. Je souligne souvent que dès qu'on ouvre la parole de Dieu, en Genèse chapitre 1, verset 1, on peut soit aller plus loin, soit la refermer, puisqu'elle commence au commencement Dieu. Et dans les temps que nous vivons, beaucoup referment. Et si on ne ferme pas là, certains vont fermer au demi-verset suivant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Certains, de nouveau, referment, croyant que le hasard et la nécessité ont permis à la création d'exister. Cette parole donc pose donc qui est Dieu et qui est l'homme. Dieu, le créateur de toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il sépara les ténèbres de la lumière et il continue de le faire. Il sépara l'eau et la terre. Tout a été créé par sa parole. Il a créé l'homme, la seule créature qu'il a créée semblable à lui, à sa ressemblance. Homme et femme, il les créa. Homme et femme à qui il a confié la gestion de la terre. Cette parole déclare aussi l'existence du mal, du mensonge. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Le mensonge qui s'est manifesté rapidement avec le serpent qui est venu tenter, Dieu a-t-il vraiment dit ? Et le mensonge s'est installé. Cette parole déclare aussi l'anatomie complète de l'être humain, esprit, âme et corps. Cette parole rappelle la tragédie de la chute et les conséquences et les bouleversements dans l'être humain séparé de Dieu, qui s'est ensuite, excusez-moi l'expression, dépatouillé avec son âme, son corps, et cherchant lui-même dans une grande confusion qui il était, ce qu'il devait faire. La relation avec Dieu était rompue et tout était perdu. Cette parole, enfin, qui nous annonce, nous précise, accomplit et révèle le plan de Dieu, le plan du salut. Cette parole, elle ne change pas, pas un iota ne passera que tout ne soit accompli. C'est une parole d'autorité, une parole entière. Cette parole dit elle-même ce qu'elle est. Toute parole, dans 2 Timothée 3,16, toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Luther a vécu dans un temps où, au fil des siècles, la tradition, le joug des hommes, avait remplacé la parole de Dieu, qui est une parole libératrice, à travers diverses opérations. Cela n'est pas nouveau, Jésus déjà s'est adressé à plusieurs reprises, s'est dressé à plusieurs reprises contre des conducteurs religieux qui pourtant connaissaient la parole, mais l'ont détournée. Je vais lire dans Matthieu 15, les versets 1 à 9, je ferai beaucoup de lectures ce matin. Matthieu 15, versets 1 à 9, « Alors les pharisiens et des scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je ne développerai pas ce que Luther a dû supporter comme combat pour tenter de rétablir la vérité. Hier, nous avons passé ce film, c'est un film, mais qui manifeste quand même les choses qu'il a dû endurer. Il y a un prix à payer pour demeurer dans la vérité. Ce que les pharisiens ont fait, d'autres l'ont fait. Alors vous allez me dire, mais en quoi sommes-nous concernés par cela ? Nous sommes aujourd'hui des chrétiens, protestants, évangéliques, reçus, on a été libérés par le Seigneur. Je crois que cela peut nous encore nous concerner. La tendance à enfermer dans des rites, des pratiques, une morale peut vite revenir. Elle est fortement dénoncée au sein des églises. Et c'est vrai que nous devons être vigilants. Jésus, je viens de le rappeler, a dénoncé sévèrement ce pharisaïsme. Pour autant, dans les temps où nous sommes, il arrive que cette dénonciation même cache souvent un refus de toute autorité, et il nous faut examiner nos cœurs. Alors pour illustrer combien la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est puissante et à autorité, je vais faire une assez longue lecture, et c'est volontairement que je le fais. Nous allons lire dans Actes 6 et 7. En Actes 6 et 7, il y a un homme qui s'appelle Étienne, et qui n'avait pas, a priori, été appelé au ministère de la prédication. Et pourtant, ce qui se passe là est extraordinaire. Alors, je vous demande votre attention, si vous avez vos Bibles, ce serait mieux, c'est un texte qui est assez long, donc à la fois, ça fait 3 pages, voilà, chronométré ce matin, ça fait 10 minutes, alors je vous demande votre attention pendant une dizaine de minutes, puis j'espère un peu après. Donc, nous sommes quelque temps après la Pentecôte, le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui avaient cru. Et donc, c'est un temps de réveil, comme sans doute jamais il y en a eu. Peut-être qu'il y en aura, bon, on ne sait pas, le Seigneur est souverain. Et voilà ce qui se passe. Il y a un détail très pratique qu'il va falloir régler. Et vous allez voir où ça va mener. En ce temps-là, donc acte 6, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Écoutons la réponse d'Étienne. Elle est un peu longue. Étienne répondit « Homme frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Hémor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par ses mains, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sina dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » En ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Pourquoi lire un tel texte aussi long? Parce que nous avons là, de la part d'un homme dont je vous rappelle qu'il était désigné non pas pour prêcher, mais pour servir aux tables, pour que les apôtres puissent, eux, se consacrer entièrement à la prière et au ministère de la parole, il y a d'abord là un clin d'œil du Seigneur qui conduit son homme qui sert à table à une prédication, une démonstration du plan de Dieu qui couvre la totalité des Écritures. N'oublions pas que Étienne disposait de l'Ancien Testament. Pour confirmer que Jésus est bien le juste annoncé par les prophètes, le germe, le Fils bien-aimé, envoyé pour le salut. Comment cet homme peut-il, sans papier, tenir un tel discours sous une telle pression? Parce qu'il y a un dépôt dans son cœur, bien posé, bien rangé au fil des années où il a entendu la parole de Dieu, transmise aux témoins de la foi de l'Ancien Testament. Il a reçu de ses pères, qui l'ont reçu de leur père, qui ont obéi au commandement de Dieu, cette parole que je te donne aujourd'hui, transmets-la de génération en génération. Étienne a reçu ce précieux dépôt dans son cœur. Cet homme s'est laissé instruire. Alors, le Saint-Esprit a de quoi puiser et assembler l'argumentaire et la démonstration qui est nécessaire en ce temps. L'un ne travaille pas sans l'autre. Mais peut-être me direz-vous, Étienne n'a pas vraiment convaincu. Il a échoué. Et il est mort. Non. Tout cela est conforme à la parole. Notre foi repose sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, mais quiconque résistera butera sur cette pierre. Non, effectivement, les religieux ont endurci leur cœur. Ils n'ont pas voulu reconnaître, eux qui connaissent pourtant ce qu'annonce Étienne. Étienne n'a pas échoué. Parce qu'un homme qui était présent là, qui sur le moment va approuver le meurtre d'Étienne, va être travaillé parce qu'il a entendu. Et la parole, comme nous dit l'Écriture, ne reviendra pas sans avoir produit son effet. Ne reviendra pas à Dieu sans avoir brisé le cœur de Saul de Tarse. Ce sera un véritable séisme dans le cœur de Saul de Tarse, qui capitulera devant celui qui l'a persécuté. Quelque temps après, sur le chemin de Damas. Étienne ne verra pas les fruits, mais Étienne a eu foi. Paul, à travers ce discours d'Étienne notamment, et parce que lui aussi a dans son cœur la parole, mais qui était endurcie, qui était une parole qui condamnait, une parole à partir de laquelle il s'est mis à juger les autres, a été bouleversé, parce qu'il a entendu ces mêmes paroles. Toutes ces choses-là, Saul de Tarse les connaissait. Les connaissait parce que c'était un intellectuel, un érudit, un théologien, hors pair. Mais un homme, un serviteur aux tables, fidèle à Dieu, dont le cœur avait été touché par Dieu, va bouleverser, va rendre cette parole comme un marteau pour le cœur de Paul. Paul va expérimenter la puissance de cette parole, celle qui juge les pensées et les sentiments du cœur. Tout ce qui est dans notre cœur, au fond de notre cœur, dans notre âme, qui condamne ces pensées parfois, mais aussi présente la vérité qui nous sauve, pourvu que nous l'acceptions. Paul souligne cet aspect d'une parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, verset 13, je crois. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, car, je le rappellerai, la foi vient de ce qu'on entend, si ce qu'on entend est la parole de Christ. Continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. De Pierre 1 également, versets 16 à 21, nous rappelle cela. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé, et j'ajoute, écrit, de la part de Dieu. De même que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré des hommes qui ont parlé de la part de Dieu et qui ont transmis par l'écrit ces paroles jusqu'à nous, de même, c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a répandu, après qu'il y soit remonté devant son Père, c'est par ce Saint-Esprit que ces paroles vont être révélées à nos cœurs. Il n'y a pas d'autre possibilité. La parole ne peut être efficace qu'appliquée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rappelle ce que Jésus a dit, applique la parole à nos cœurs, nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, si nous acceptons ces choses, elles apportent une libération, guérison et force dans nos vies, accomplissant ainsi le mandat, et je terminerai par ça, le mandat de Jésus-Christ, que nous trouvons dans Luc 4. Verset 18, et qui rappelle Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Nous avons là une invitation à lire la parole de Dieu. Pas simplement à la lire comme disait Georges Müller, et que simplement elle passe d'une oreille à l'autre en transitant par notre cerveau, passant dans un tuyau. Ça m'invitait à la méditer. À la méditer. Georges Müller, j'ai rappelé ce passage, j'aurais voulu le lire, mais c'est un peu long, dont on connaît l'œuvre, la fidélité, la foi. Après avoir pendant des années commencé sa journée en priant, souffrant, gémissant, avant que le Seigneur lui donne quelque chose, fait une découverte un jour, c'est que plutôt que de commencer par prier, il commence par méditer la parole. Et il écrit que, alors, méditant la parole, il est amené rapidement, verset par verset, mot par mot, il est amené dans la prière, la supplication, l'action de grâce. Alors il continue, il soulignait que, comment, et ça m'a touché, comment, Seigneur, pouvons-nous te servir si d'abord, le matin, nous n'avons pas la joie de te connaître? Et à travers cette méditation de la parole, qui le conduisait dans la prière, il travaillait cette parole, jusqu'à ce que le Seigneur lui donne la joie. Alors, il pouvait servir. Je reconnais que dans ma vie, Seigneur, aide-moi à démarrer le matin avec la joie de te connaître. Ça nous était rappelé au début de ce culte. La joie, est-ce qu'on a gardé cette joie de le connaître? Est-ce que les soucis de la vie, des richesses, nos occupations, nos relations sont venues étouffer tout cela? Le Seigneur nous a laissé sa parole pour la méditer. Je pourrais, mais vous le ferez vous-même, cette méditation à Josué, il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, parce qu'il s'agit bien de le mâcher, de le méditer. Alors, s'il y a ce précieux dépôt dans nos cœurs, nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. Il y a des paroles, Pierre va le dire, dont Paul parle, qui sont difficiles à comprendre. Méditons-les. Demandons au Seigneur. Seigneur, viens m'éclairer. C'est ce que faisait Georges Müller, c'est ce que font les témoins de la foi. Nous sommes appelés à faire. Seigneur, viens m'éclairer. Alors nous aurons une méditation qui ne viendra pas nous remplir d'une connaissance pour la connaissance, mais un bon dépôt qui viendra s'installer dans nos cœurs. Alors, le Saint-Esprit, dans la souveraineté divine qui est la sienne, pourra agir au moment, dans nos rencontres, dans nos lieux de travail, dans la personne qui va nous faire rencontrer, pour saisir ce qui a été déposé dans nos cœurs et l'assembler, pour construire un discours peut-être pas aussi long que celui d'Étienne, mais les paroles que les gens auront besoin d'entendre. Ça, c'est notre part de stocker avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, nous avons peut-être un travail de mémoire à faire, mais je crois que la parole méditée, celle qui va venir percuter nos cœurs, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. L'ennemi de nos âmes va peut-être vouloir remettre un voile, recoudre le voile. Persévérons, persévérons. Alors le Saint-Esprit pourra saisir cela comme il le voudra. Pourra faire de nous des instruments utiles dans sa main. Peut-être pour des œuvres dont nous ne verrons pas les fruits. Mais mon juste, il vivra par la foi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour la parole que tu nous as laissée. Seigneur, chacun de ceux qui t'ont connu ont poussé un cri, Seigneur. Mais Seigneur, c'est parce qu'ils ont reçu une parole de ta parole dans leur cœur, qu'ils ont eu accès à cette grâce. Parce qu'ils ont cru, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, je te prie, nous accorder, nous donner d'être persévérants, Seigneur. Au milieu de toutes les circonstances, au milieu des pensées de ce monde, Seigneur, qui viennent si facilement nous envahir, qui viennent si facilement lever nos doutes. Seigneur, je te prie ce matin de venir purifier mon cœur lorsqu'il est partagé, Seigneur. Parce que tu dis, Seigneur, qu'un cœur partagé, qu'un cœur qui doute, c'est un cœur qui a de l'impureté. Alors viens purifier mon cœur ce matin, Seigneur. Viens aussi, Seigneur, visiter mes frères et sœurs pour que cette parole que nous avons reçue, qui nous a convaincus de péché, qui nous a aussi, Seigneur, qui a libéré notre conscience, qui nous a conduits dans la liberté, Seigneur, glorieuse des enfants de Dieu, Seigneur. Nous la gardions, nous la conservions, jour après jour, jusqu'à ton retour. Que ton nom soit béni, Père. Amen.